Trainville PM. Les chefs.
Et nous avons de bonnes relations avec nos amis catalans. Cependant, pour ce qui est de la suite des choses, nous laissons le processus suivre son cours. Nous ne nous immiscerons pas dans un processus qui se trouve dans un autre pays.
On aimerait ça qu'ils s'entendent sur la forme que prendrait le référendum.
Alors, c'est clair que nous, on va reconnaître un oui au référendum catalan et on va dire ça signifie qu'ils ont le droit à l'indépendance. Leur vote est légitime.
Avec Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Alors, Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour, Alec.
Bonjour.
Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal qui est à Québec. Bonjour, Antoine.
Salut, Bernard.
Alors, c'est une journée marquée par des dossiers internationaux. La Catalogne, on vient de l'entendre, mais aussi le Mexique. Oui. Ramasse-nous ça, là, parce qu'on a vraiment beaucoup de sujets aujourd'hui, là.
Je me dépêche sur la Catalogne. Écoute, c'est terrible ce qui se passe en Catalogne. C'est une crise pire que la crise d'octobre.
Ils veulent empêcher les Catalans de voter sur leur avenir.
Ah oui, puis là, une douzaine de responsables du gouvernement indépendantiste de la Catalogne ont été arrêtés.
Oh oui.
Arrêtés. Bon,
c'est comme la loi des mesures de guerre, là.
C'est épouvantable. Les ministères ont fait l'objet de perquisitions par la garde civile espagnole.
Ils ont saisi des millions de bulletins de vote. J'ai un Québécois là-bas.
Écoute,
là, qui nous a écrit,
là. On peut s'attendre à autre chose d'une vraie démocratie libérale.
10 millions.
C'est des réflexes de franquistes et c'est troublant. Et là, hier, quand Martine Ouellet a posé la question en chambre, il y a comme eu des petits rires là, en voulant dire qu'est-ce que le Québec a à dire là-dessus. Je m'excuse, là, le Québec a quelque chose à dire là-dessus. Hein? Rien de ce qui est humain ne m'est étranger, d'abord, Montaigne l'a dit.
Rien de moins.
Oui, et c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Deuxièmement, quand là, les gens ont dit, en général, il ne faut pas se mêler de ça. Hein, c'est aux Catalans et aux Espagnols de s'entendre. On a entendu, par exemple, Jean-Marc Fournier dire ce qui suit. On peut l'écouter.
Il ne doit pas y avoir d'intervention dans les référendums québécois. Si on commence à intervenir dans les autres, est-ce qu'on n'encourage pas justement que d'autres externes viennent s'impliquer dans nos prochaines consultations?
Ouais.
Et là, je veux rappeler quelque chose.
Hey, on a eu deux référendums au Québec. Enfin, trois, en incluant Charlottetown.
Oui,
là.
Il l'a dit, ça. Mais il dit qu'il ne faut pas s'en mêler. Mais je m'excuse, il y a des fédéralistes qui se sont mêlés de la question espagnole et catalane. C'est Stéphane Dion lui-même qui est allé faire une tournée de conférences en 2014 en Espagne. Stéphane Dion qui ensuite a été le ministre des Affaires étrangères du Canada. Et qu'est-ce qu'il a dit?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il a dit? Je te sors une citation de son discours. « Vous, les Espagnols, ne soyez pas aussi tolérants, décentralisés et ouverts que ne l'a été le Canada, car votre minorité ou vos minorités vont se retourner contre vous, menacer l'unité de votre pays, sinon le détruire. »
Ben voyons donc.
Il a dit ça.
En quelle année, ça?
En 2014. Va voir l'article de Martin Croteau dans la presse.
2014, il est encore
il est député, il n'était pas ministre.
Il était député, évidemment, l'élection est en octobre 2015.
Ouais, c'est Harper qui est encore
il
là.
Il a dit référendum constituerait un traumatisme social dont l'Espagne peut se passer.
Bon, OK. Bon,
m'excuse, si les fédéralistes peuvent s'en mêler, je pense que le Québec pourrait très bien s'en mêler pour dire...
Non, on n'est même pas obligé de dire oui ou non à l'indépendance.
Exactement.
Là, on a juste à
non,
dire oui à la démocratie. Ben oui,
on
c'est
peut
ça.
S'en mêler ben oui, quand ben il oui. est question de démocratie. Je dis, ben non, évidemment, je ne dis bon. Pas de s'en mêler pour l'indépendance.
Voilà. Alors, ramenons, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter là-dessus à Québec? On a entendu les clips au départ. Là, M. Legault qui dit, moi, je souhaiterais qu'il s'entende sur les termes du référendum. Bon, Lisée dit, s'il vote oui, je vais le reconnaître. Et les libéraux qui disent, on s'en occupe pas.
Tu résumes très bien ça.
Bon.
Le Québec solidaire qui a dénoncé aussi. Là.
Et Justin Trudeau qui a quand même dit quelque chose d'intéressant. Quand je l'ai entendu, Alex, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il a fait référence au droit à l'autodétermination des peuples ici au Canada.
Oui.
Et je crois qu'on va l'entendre.
On peut l'entendre.
Nous sommes toujours convaincus que le droit des peuples à l'autodétermination est important. C'est certainement quelque chose qu'on est en train de respecter, qu'on a toujours respecté par rapport à la situation, aux situations ici au Canada. Mais encore une fois, je n'aurai pas de commentaire à faire sur la situation en Espagne.
J'ai trouvé ça intéressant quand je l'ai entendu, cette clip-là. Est-ce que je suis trop enthousiaste?
Ben, il n'a pas voulu élaborer sur le 50 % plus 1, hein, t'as remarqué? Ça, c'est le bout où il n'est pas d'accord. Mais sur le fait d'avoir un référendum ou non, celui, il semble être plutôt ouvert à l'idée. Moi, je pensais qu'il dirait tout simplement...
Je refuse
de commenter. Au Brexit, il avait été le moins présent possible là, dans tout ce débat-là en Grande-Bretagne. Donc, j'étais étonné qu'ils disent quand même, ici, nous, on respecte ça. Puis,
en voulant dire,
on pourrait faire la même chose en Espagne.
Ouais, c'est ça.
Bon. On pourrait lui demander à M. Trudeau, est-ce qu'il est d'accord avec son ancien ministre des Affaires étrangères qui est allé dire en 2014 aux Espagnols de tenir la ligne dure à l'égard de la Catalogne?
Il te répondrait qu'il n'était pas ministre des Affaires étrangères à l'époque parce que je ne pense pas qu'il aurait laissé Stéphane Dion aller faire ce type de discours-là comme ministre des Affaires étrangères. Stéphane Dion est invité à peu près partout dans le monde pour parler des questions référendaires puis d'autodétermination.
Je fais référence d'ailleurs à sa loi sur la clarté,
défendait bec et ongle un peu partout dans le monde.
Oui, c'est ça.
Je suis sûr qu'il va réagir.
C'était ça son modèle.
Je suis sûr que Dion, malgré sa réserve.
Mais là, il est ambassadeur en Europe. Je pense pas qu'il est dans une position pour commencer à se mêler. En tout cas.
Ça serait vraiment intéressant.
Ça créerait tout un.
Si j'étais à l'actualité, là, j'essaierais.
Oui.
Antoine, tu veux juste mettre le trouble? Arrête donc.
Diplomatiquement parlant, je suis pas sûr que Justin Trudeau voudrait qu'il s'ouvre
la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de sortir Antoine du constitutionnel puis le ramener à un débat plus terre à terre. Alors parlons, Antoine, d'hydroélectricité.
C'est électrique, mais
ce n'est pas constitutionnel.
Tu sais que tout m'intéresse, je n'y peux rien.
Oui, c'est quoi la citation de Montaigne encore?
Paul Valéry. Non, Paul Valéry, c'est « Tout m'intéresse, je n'y peux rien ». Je te jure.
OK, mais rien de ce qui est humain
ne m'est étranger. Ben oui, c'est magnifique, ça. C'est la base de l'humanisme. Oui. Mais tout ça pour dire qu'on a parlé d'hydroélectricité aujourd'hui. C'est la CAQ qui attaque Philippe Couillard, qui a dit « l'ère des grands barrages, c'est terminé ». En gros, c'est terminé. Là, il a nuancé en chambre tout à l'heure en disant que il y aurait peut-être des grands barrages des fois. Il pourrait en avoir d'autres dans le nord, mais qui serviraient juste pour le nord parce que faire des lignes de transport d'électricité, ça coûte cher. C'est très controversé aujourd'hui. La coalition Avenir Québec et son chef François Legault dénoncent cette position-là, dit que l'hydroélectricité est au cœur de notre développement. Il a fait appel à une espèce de mythe fondateur. Moi, je dis que Philippe Couillard, lui, en chambre, a dit « Attention, c'est pas parce qu'on a toujours fait ça que l'avenir est à ça », parce qu'on sait que Philippe Couillard, lui, il dit « On pourrait avoir de l'énergie solaire davantage, utiliser l'énergie solaire davantage, et même que chaque maison pourrait devenir productrice d'énergie avec des toits solaires, puis quand... t'as consommé toute l'énergie dont tu as besoin, mais tu l'envoies dans le réseau. Et c'est possible maintenant, la loi a été changée. Donc, on peut écouter des extraits de cet intéressant débat à l'Assemblée nationale ce matin.
Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer là, pourquoi il veut interdire à Hydro-Québec de considérer...
Alors, s'il regarde, s'il lit un peu sur la question, là, il va voir que les prix aux États-Unis ont chuté massivement. En fait, les prix sur lesquels on compétitionne sont inférieurs au coût de production qu'amènerait un nouveau barrage. Ça, c'est le monde qui change devant nous, autour de nous. Je trouve qu'elle est très ancien siècle, sa question.
OK.
Elle est très ancien quoi?
Ancien siècle.
Ancien siècle, encore une fois. Il revient
là-dessus.
Oui,
il revient que le siècle...
Je trouve qu'il devrait faire attention. La dernière fois qu'il a amené l'ancien siècle, il s'est fait dire, oui, c'est ça, dans l'ancien siècle, vous êtes allé travailler pour l'Arabie saoudite, monsieur
Couillard. Oui, mais sur l'électricité... C'est intéressant d'avoir ce débat-là. Puis je trouve que Philippe Couillard a une position qui peut se défendre et qui n'est pas dénuée d'intérêt. Il était un peu facile ce matin de la part de François Legault de dire « Nous, là, à la CAQ, on va exporter l'électricité davantage. » Ah oui, c'est facile d'exporter de l'électricité aux États-Unis. Je m'excuse, Hydro-Québec est en train de se planter avec le projet du Norton Pass aux États-Unis.
Antoine, ne sois pas si pessimiste. Il y a encore des discussions qui sont en cours.
Il y a encore évidemment, il y a un appel d'offres au Massachusetts. On va peut-être l'obtenir. On va peut-être être obligé de construire une autre ligne. Mais c'est compliqué et ça peut coûter très cher à court terme. On peut perdre énormément d'argent à court terme pour espérer un jour y gagner.
Okay.
En tout cas, il y a des sérieuses questions.
Je sens que tu as un petit préjugé favorable pour la position de Philippe Couillard sur cet enjeu.
Oui.
Tu penses,
oui, oui.
toi, que
ben
c'est
moi,
plus...
Je suis prêt à écouter parce que l'appel au mythe fondateur, écoute, les barrages, j'en suis très fier, les barrages du Québec, et mon cœur vibre quand je vois Manic 5, mais en même temps, est-ce que c'est nécessairement l'avenir de l'électricité, de la production d'électricité? On peut se poser la question avec des nouvelles formes de production d'électricité dont le coût baisse constamment. Voilà.
OK. On va aller dans le Dominion, comme tu l'appelles, retrouver notre ami Alec. Alec, je sais que tu veux nous parler de Jack Meade Singh, mais avant ça, j'aimerais ça que tu nous parles, si ça te dérange pas trop, de la réforme fiscale du ministre Morneau.
Bien sûr,
Toi, tu penses-tu vraiment que les conservateurs sont en train de ronger un os gagnant? Moi, je te le dis, là, je suis très sceptique. Et ils ont posé toutes leurs questions depuis lundi, mardi.
Oui.
Aujourd'hui, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter la période des questions, mais...
Et cet après-midi, à Ottawa, toujours à 2h30 à peu près. Bon. Fait qu'on va voir s'ils vont effectivement garder cette même ligne de conduite-là. Là.
Voilà, exactement. Moi, j'ai posé la question, on m'a dit, « Ah, attends, tu verras. » Mais hier et avant-hier, toutes les questions des conservateurs étaient sur la fameuse réforme fiscale.
Mais c'est que si ça se transforme en, je l'appelle comme ça, là, une guerre de classe en même temps, là, donc les privilégiés qui ont... du moins dans la bouche du gouvernement Trudeau, la chance de s'incorporer comme des médecins, des avocats.
Et de sauver beaucoup d'impôts.
Et de sauver beaucoup d'impôts parce qu'il y a toutes sortes de trous dans la loi sur l'impôt qu'on essaie de corriger du côté du gouvernement Trudeau. Puis ça faut ramener donc ces riches-là à un niveau d'imposition qui ressemble à celui de la classe moyenne qui, elle, donc les salariés, n'ont pas la chance d'avoir toutes ces échappatoires-là. Mm-hmm. C'est clair que les conservateurs vont avoir de la difficulté parce que là, tu te retrouves à défendre le 1% qui a beaucoup d'argent, là, ceux qui font 200, 300, 400 000 par année et qui profitent de ces mesures-là qu'on essaie de colmater. Si le Parti conservateur réussit à amener ça sur le débat des entrepreneurs qui créent des emplois et donc qui ont besoin d'un peu d'oxygène au début de la formation de leur entreprise pour être capable de décoller, là, ils ont des chances. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments du côté du gouvernement Trudeau. Et effectivement, il y a un risque de ce côté-là que les conservateurs aient l'air de défendre une classe de privilégiés. Je peux te faire entendre d'ailleurs le type d'échange qu'il y a à la Chambre des communes.
Absolument.
Entre Andrew Scheer, donc chef du Parti conservateur, Justin Trudeau, premier ministre, sur ce débat-là. Ça ressemble à ça depuis quelques jours.
Est-ce que c'est équitable pour les employés mis à pied par le restaurant où ils travaillent simplement parce que le propriétaire doit payer plus d'impôts pour financer les dépenses hors du contrôle du premier ministre? Où est l'équité dans tout ça?
Les Canadiens nous ont envoyés au gouvernement parce qu'ils reconnaissaient que c'était inéquitable, que la classe moyenne paye trop d'impôts et que les mieux nantis trouvent des façons de ne pas payer autant d'impôts.
Okay. Alors, c'est ce type de débat-là qu'on a. Ce qu'on a appris dans les derniers jours, dernières heures, c'est que, les députés libéraux, donc du côté de Justin Trudeau, se sont fait un petit peu chauffer les oreilles cet été par les entrepreneurs, par les médecins dans leur circonscription.
C'est un lobby très bien organisé.
Très puissant,
très riche. Ils ont de l'argent.
Et donc, il y avait au caucus libéral quelques Nervous Nellies, comme ils appelaient Jean Chrétien.
Dans les maritimes, hein,
Entre autres, donc des gens, les députés libéraux qui disaient là, peut-être qu'il y a des choses quand même...
Quelle serait la traduction de Nervous Nellies, selon toi? Des mauviettes nerveuses.
Au moins, quelque chose comme ça. Moi, j'aurais dit
des têteux nerveux.
Des anxieux, mettons.
Ouais, OK.
On a trois
déclinaisons là, pour nos auditeurs.
Et là, ce qu'on dit du côté du bureau de Bill Morneau, c'est qu'on est encore en consultation. Hein. Tout ça, cette controverse-là émane d'une proposition qui a été faite le 18 juillet par Bill Morneau, mais qui, depuis ton consultation, ce n'est pas les résultats finaux qui sont connus encore. Qu'est-ce que va être cette réforme-là? On le sait, entre autres, que Bill Morneau va aller rencontrer les agriculteurs prochainement parce qu'eux ont peur d'être coincés avec cette réforme-là. Et là, ce qu'on a dit aux députés nerveux du caucus libéral, c'est la proposition qui est sur la table ne sera pas intégralement appliquée lorsque va arriver les résultats au mois d'octobre de notre consultation. On va donner quelques petites choses pour calmer la grogne.
Donc, ils vont jouer dans la mécanique, hein? C'est un peu
exact.
Ça
on va adapter la mesure.
Ouais.
La plus spectaculaire, celle qui va empêcher éventuellement les entrepreneurs ou les médecins de pouvoir répartir une partie de leurs gains sur sur d'autres personnes de leur famille.
Le fractionnement.
Fractionnement, saupoudrage. Dire, bon, mais une partie de mon salaire que je me verse en dividende va à ma femme puis d'autres à mes enfants, même mineurs parfois, pour faire baisser artificiellement mes impôts. Ça va pas bouger, vous pouvez en être certain. C'est symbolique.
J'espère.
C'est c'est important.
J'espère.
Mais la partie, par exemple, sur le fait qu'on ne puisse pas accumuler de manière passive des gains dans une entreprise pendant plusieurs années, ça, peut-être qu'on va jouer avec la mécanique de ces histoires-là. Bref. Mais c'est un sujet qui est important, mais il va y avoir du lousse qui va être laissé, je pense, du côté du gouvernement pour être capable de calmer les inquiétudes, ou du moins une partie des inquiétudes.
Et comme nous sommes incroyablement cohérent avec une suite dans les idées vraiment formidables. On s'en va à la pause publicitaire, mais au retour, justement, Antoine, tu vas nous parler de la hausse des salaires des médecins qui a fait grande esclandre ce matin à l'Assemblée nationale.
Absolument,
et il y a un lien, bien entendu, entre ce que vient de nous parler Alec et les salaires des médecins, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont incorporés, justement, pour payer moins d'impôts. Alors, de retour avec nos deux experts de la politique, Alec Castonguet et Antoine Robitaille. Antoine, parlons donc de cette hausse, de cette autre hausse de salaire dont les médecins, qu'on aime tant, nos médecins, vont bénéficier.
Gratiner, une hausse gratinée.
Oui. Gratiner, j'adore gratiner.
Je le sais, c'est pour ça que je l'emploie.
Quatre fromages, là tu me fais vraiment plaisir. C'est un ascenseur qui ne cesse de monter dans ce cas-là, qui ne descend jamais. Et c'est la presse qui nous révélait certains éléments de l'entente de principe conclue entre le gouvernement Couillard et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Et ça a vraiment, ça a été qualifié, ces hausses-là de révoltantes et de déplorables. Ça a été la première question de Jean-François Lisée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il a mis en parallèle le demi-million d'heures de soins à domicile qui ont été coupées. Il a dit, le gouvernement, par contre, a beaucoup d'argent pour les médecins. En plus de l'augmentation de 6 % accordée pour l'année en cours, il ajoute 10 % pour les trois prochaines années, 16 % d'augmentation pour les médecins d'ici 4 ans. Là, il a dit, c'est terrible, c'est plus du double que ce qui a été accordé à l'ensemble des autres employés de l'État. Ça veut dire 45 000 $ par médecin, plus un chèque de 40 000, plus un autre chèque de 40 000.
Comment ça, t'as peur, là? Wow.
Ouais, je te cite la question, là, moi, tu sais les chiffres.
Non, mais le 45 000...
ça, c'est Alex qui s'occupe des chiffres.
Le 45 000, j'imagine, c'est 16 % ça, parce qu'après ça, on parle de deux forfaitaires de 40 000 chacun. Là.
C'est ça.
Ça rentre pas donc dans l'échelle salariale, là, c'est mon montant forfaitaire, oui, c'est ça.
Mais là...
C'est beaucoup d'argent quand même.
Antoine, en passant, il y a Francine qui nous a écrit. Là, elle dit « Bonjour, c'est ma tante. Voulez-vous, s'il vous plaît, graisser la porte du studio d'Antoine? »
Je pense qu'on a besoin de graisser.
Sérieusement, on dirait que tu travailles dans une maison hantée. On entend ça à tous les émissions.
Mais écoute, c'est... La radio, c'est
T'es-tu dans
audio,
un grenier? T'es-tu dans un grenier avec des fantômes,
voyons,
Antoine?
Tu le connais, le Cochon, à l'Assemblée
nationale? Je sais que je le connais.
Des belles vieilles portes en bois.
Ben oui, mais là, Antoine, achète-toi, prends ta graisse à bicycle, là, pour ta chaîne à bicycle. Apporte-la, puis mets-la, donne une petite shot là, dans ta
peinture. On pourrait faire même une pub de Jigaloo.
Ta peinture. Bon, allez, parlons des médecins maintenant.
Écoutons Diane Lamar, la critique.
Eux sont bien graissés.
Oh! Bon, oui! Bernard Drainville!
Ah, qu'est-ce que
c'est?
Très
bon, ça.
Il est incroyable.
Très bon, très
Écoutons
bon.
Mme Lamar.
Quand il est arrivé comme ministre, il a bien constaté que c'était démesuré, mais là, la montagne le rattrape et il est devant quelque chose qui l'oblige à ramasser tout l'argent pour payer les médecins.
OK, ça, voilà. C'est Mme Diane Lamar, la porte-parole de...
Oui,
c'est
mais Antoine, il n'y avait pas Philippe Couillard qui avait déclaré, puis il me l'avait même dit en entrevue, moi, à l'actualité.
Ouais.
Le temps de payer les médecins, c'est révolu, là. T'sais, on va s'occuper des patients, ils ont obtenu leur argent, sont à la moyenne canadienne.
Le rattrapage
est fini, on leur en donné assez, puis on va mettre l'argent ailleurs. Moi, il m'avait dit ça clairement de même. Mais
c'est la fameuse clause remorque, là, non, qui s'ajoute.
Ben oui, c'est tout ça.
Hein, c'est ça, hein?
Alors, c'est ce qui a rappelé d'ailleurs ce que tu dis, Alec. C'est Jean-François Lisée qui l'a rappelé. Puis M. Couillard a répondu en disant que non, nous, il faut bien payer les médecins. En gros, c'est ça. Mais je n'ai pas la citation exacte devant moi.
Bon, retournons à Ottawa parce qu'il y a quand même des discussions. Jack Meeting, là, qui va fort probablement bien faire dans la course, sinon la gagner pour la chefferie.
Il y a des bonnes chances au NPD.
On me disait d'ailleurs, Alec, il y a des deux chiffres qui circulent, mais il aurait vendu entre 40 et 50 000
nouvelles cartes. Oui, 47 000, le chiffre qui circule. Il aurait vendu 47 000 nouvelles cartes de membres, puis le total des membres du NPD, c'est 124 000. Donc, si ces membres nouveaux vont voter pour lui, parce qu'il y a toujours une incertitude sur le taux de participation, mais par contre, on sait que la communauté sikh vote en masse, en général.
On peut penser qu'il y a une bonne partie du 47 000.
Oui, dans la région de Toronto, ouais, dans la région de Vancouver, entre autres.
Donc, le 47 000 est inclus dans le 124.
Exact. Ça fait que si son membership à lui sort, il y a des bonnes chances de l'emporter au milieu du mois d'octobre, là, effectivement.
Bon, alors Jack Meeting, donc, qui porte la barbe et le turban et le kirpan.
Oui.
Il veut pas, il suscite des discussions à deux niveaux.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a la question, en fait, il y a plein de niveaux de questionnements. On n'a pas fini d'en parler si jamais Jack Meeting l'emporte. Il y a évidemment la question des signes religieux qu'il porte, parce que lui, il répète constamment, je crois à la séparation de l'État
Et des religions.
Et des religions, il le répète constamment. Mais en même temps, c'est difficile de faire abstraction de ce qu'il porte, parce que c'est assez visible. Donc, évidemment, dans la course, ça rend des députés du NPD mal à l'aise. D'autres l'appuient pour ses valeurs progressistes. D'autres disent, ben ça va être un obstacle. Il faudra vendre davantage Jack Meeting, notamment au Québec, avec le débat qu'on a connu dans les dernières années. Donc, il y a beaucoup de niveaux là-dedans. Puis là, ce qui s'invite dans la bataille, c'est ses adversaires politiques dans autres partis. Le Bloc québécois, Martine Ouellette, a flairé qu'il y avait un malaise, un inconfort, notamment chez les membres du NPD québécois, mais aussi dans
de la gauche religieuse.
Voilà, dans l'électorat, et a déclaré que c'est après la droite religieuse, c'était maintenant la montée de la gauche religieuse. Donc, elle invente un nouveau terme après le transparlementarisme.
Oui, oui, oui.
On est dans la gauche religieuse. Alors, Martine Ouellette a le sens de la formule.
Et elle attaque Jack Meeting, c'est clair.
Clairement. Alors, on peut entendre Martine Ouellette l'essentiel de ce qu'elle a dit hier au sujet de Jack Meeting.
Moi, ce que je trouve un peu, encore là, compliqué de la part de M. Singh, c'est qu'il dit une chose et son contraire.
Sur
les signes religieux, il dit que lui, il est d'accord avec la séparation de la religion et de l'État. Mais il affiche exactement le contraire. Donc, il dit, moi, j'ai des valeurs progressistes. Mais finalement, ce qu'il affiche, c'est des valeurs religieuses. C'est pas la même chose. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est après avoir vu, je vous dirais, la droite religieuse, il semble y avoir une montée de la gauche religieuse.
Moi, je pense qu'elle est en maraudage.
Oh, clairement.
Elle parle à certains députés NPD du Québec qui ont déjà, pour certains, manifesté leur inconfort. Et elle espère qu'au terme de l'élection possible, on verra, de Jack Meeting, elle espère en recruter quelques-uns dans son caucus.
C'est possible, c'est possible. D'ailleurs, Jack Meeting, on lui a posé la question.
Il deviendrait un parti reconnu à combien déjà?
À 12. Il en manque deux.
On lui a posé la question à Jack Meeting, est-ce qu'il répond donc au Bloc québécois? Il a refusé de le faire directement. Il a dit, je suis capable de convaincre les Québécois de passer outre mon apparence et donc de se concentrer sur mes idées. Et il a même parlé des agriculteurs québécois dans sa réponse. Il a dit, vous savez, moi je vais faire le tour du Québec, je vais aller parler aux agriculteurs. J'ai des plans pour eux dans les régions du Québec. On peut l'entendre.
Je vais envoyer un message pour les régions. Moi, je suis quelqu'un qui vient d'une famille qui était des fermiers pour les générations. Donc, dans mon cœur, je comprends les enjeux des fermiers du secteur agricole.
Il parle de ses ancêtres, je pense.
Effectivement.
Au Punjab ou je ne sais pas.
Là, ce qui va être intéressant de voir dans l'évolution de ce discours-là de Martine Ouellette, mais de ses adversaires en général, c'est jusqu'où tu vas pour attaquer quelqu'un sur ses croyances personnelles. Parce que là, dans la phrase de Martine Ouellette, il dit, il affiche ses croyances religieuses, ce qui est vrai. Mm-hmm. En même temps, est-ce que ça veut dire que quelqu'un ne peut pas se présenter en politique et afficher ses croyances en même temps dans des religions où ça l'impose un peu. T'sais, en religion chrétienne, catholique, non. Mais les sikhs, je pense aux juifs, entre autres, qui portent la kippa, une femme qui voudrait se présenter avec le hijab, par exemple.
Ma réponse là-dessus, moi, ça a toujours été de dire c'est aux électeurs de décider.
Ben c'est ça.
C'est les électeurs qui doivent décider.
C'est eux qui mettent le X dans la boîte le jour du scrutin. Exactement. Fait que je me dis, est-ce que là, on ne devrait pas du côté du Bloc s'attarder peut-être à ses idées plutôt qu'à son apparence? Parce que là, je trouve qu'il y a un glissement là, qui m'apparaît un petit peu dangereux.
Parce qu'il est vulnérable là-dessus. Quand il dit qu'il est contre le port du casque pour les conducteurs de moto en Ontario, il est contre le fait que les Sikhs soient obligés de porter le casque protecteur. Le casque de sécurité.
Ça n'a pas passé en course dans la.
Mais là, c'est
en Colombie-Britannique.
Mais c'est carrément ses convictions religieuses là, qui prédominent. Quand il dit je ne veux pas, moi, que les Sikhs portent le casque, soient obligés de porter le casque comme le reste des conducteur de moto ontarien, là, il fait primer sa conviction religieuse sur la santé et la sécurité des conducteurs de moto.
Oui, puis bon,
c'est là, qui, à mon avis, qu'il devient plus vulnérable.
Conduire une moto, c'est pas un droit, là, on s'entend. Là, donc, non, effectivement, là, il est plus vulnérable sur cette question-là. Il l'est moins sur d'autres, parce que, bon, je l'ai déjà dit, il est pro-choix, est favorable au mariage gay, alors que c'est pas ce qu'on s'attend nécessairement de quelqu'un qui est pratiquant, croyant, sikh. Mais j'aimerais mieux qu'on s'attaque à ça et qu'il réponde à cette question-là, plutôt que de dire, ben, vous savez, il affiche ses convictions religieuses, donc les Québécois en voudront pas. Là, il me semble que là, on a une ligne qu'on a franchie du côté du Bloc qu'il faudra, à mon sens, faire attention.
Oui.
Parce qu'on va l'avoir, ce débat-là. Là. On a 2 ans encore. S'il l'emporte, on a encore 2 ans. D'ailleurs, je te termine avec ça comme précision. Il a dit ce matin, parce qu'on lui a posé la question, que s'il l'emporte, est-ce qu'il va rapidement vouloir siéger à la Chambre des communes? Parce qu'on sait que Thomas Mulcair a dit dans les derniers jours que lui trouvait important que le nouveau chef du NPD puisse rapidement siéger parce qu'il reste 2 ans avant les élections, présence à la Chambre des communes, questionner le gouvernement. Lui a dit, moi, je suis pas particulièrement pressé. Jack Layton a passé 2 ans à l'extérieur de la Chambre à l'époque où il a été élu au NPD. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de députés du NPD à l'époque de Jack Layton, là, quand il est arrivé. C'est peut-être un petit peu différent maintenant. Il y en a 40. Mais bon, passons outre. Alors, mais d'ici une chance, éventuellement, effectivement, une élection partielle qui se tient où j'ai des chances de gagner, je vais y penser, mais sinon il va pas faire des pieds et des mains pour aller siéger à la Chambre des communes, ce qui faisait plus ou moins l'affaire donc de Thomas Mulcair, visiblement, qui lui pensait autrement. Donc ça fait partie du débat qu'on a actuellement. Les membres sont en train de voter, hein, jusqu'au 1er octobre. Donc tout ça fait partie du brassage. Les membres ont des réflexions à faire sur pour qui ils vont voter. Ça fait partie du débat.
Et on continuera ce débat demain avec Alec, que vous venez d'entendre, chef du bureau politique au magazine L'Actualité, et Antoine Robitaille. Antoine,
au revoir.
Je sais que tu as plein d'autres choses à rajouter, mais tu pourras continuer demain.
J'avais 20 sujets.
Et tu seras toujours demain le chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal. Si tu ne l'étais pas, ce serait une très, très grosse nouvelle.
Oui, tu nous le diras.
À demain.
Salut.
Au revoir.